par H.P. Lovecraft et Elizabeth Berkeley. On a beaucoup écrit sur les plaisirs et les souffrances procurées par l'opium, les extases et les horreurs de De Quincey. Les paradis artificiels de Baudelaire ont été décrits et interprétés avec un art qui les a immortalisés, et tout le monde connaît la beauté, l'aspect terrifiant et mystérieux de ces royaumes obscurs dans lesquels est transporté le rêveur inspiré. Mais malgré tout ce qu'on en a dit, personne n'a encore osé suggérer la nature des fantasmes qui se déroulent dans l'esprit, ou d'indiquer la direction des routes inouïes dont le participant est irrésistiblement entraîné à suivre le parcours flamboyant et dépaysant. De Quincey fut emporté en Asie, ce continent foisonnant d'ombres nébuleuses, dont l'impressionnante antiquité est telle que le grand âge de la race et du nom domine le sens de la jeunesse chez l'individu. Mais il n'a pas osé aller plus loin. Ceux qui y sont vraiment allés sont rarement revenus. Lorsqu'ils ont reparu, ils sont restés silencieux, ou bien ils étaient complètement fous. Je n'ai pris de l'opium qu'une seule fois, l'année de la peste, lorsque les médecins cherchaient à atténuer les souffrances dont ils étaient impuissants à soigner la cause. Le mien, qui était épuisé d'horreur et de fatigue, avait forcé la dose, et j'ai voyagé vraiment très loin. J'ai fini par en revenir, et par survivre. Mais mes nuits sont peuplées d'étranges souvenirs, et je n'ai plus jamais permis à un médecin de me prescrire à nouveau de l'opium. Pendant le traitement, les douleurs et le martèlement que je ressentais dans la tête étaient tout à fait insupportables. Je ne me souciais absolument pas de l'avenir. M'échapper par la guérison, l'inconscience ou la mort était tout ce qui m'intéressait. J'étais en partie délirant, si bien qu'il est difficile de situer le moment de transition exact. Mais je crois que l'effet a commencé à se manifester peu après que ce martèlement ait cessé d'être douloureux. Comme je l'ai dit, j'avais reçu une dose trop forte. Les réactions étaient donc loin d'être normales. L'impression de tomber curieusement dissociée de l'idée de pesanteur ou de direction était dominante. Il y avait cependant, subsidiairement, celle de foules invisibles d'une incalculable profusion, des foules de différentes natures, mais ayant, toutes avec moi, un rapport plus ou moins net. Parfois, je ne me croyais plus tellement tombé moi-même, mais j'avais plutôt l'illusion de voir l'univers ou les siècles tomber devant moi. Soudain, ma douleur cessait. Et je commençais à associer le martèlement à une force extérieure plutôt qu'intérieure. La sensation de chute avait également disparu pour céder la place à celle d'un repos inconfortable, temporaire. Et en prêtant l'oreille de plus près, le martèlement devenait celui de la vaste et insondable mer, dont les lames colossales et sinistres venaient bouleverser une plage désolée à la suite d'une tempête gigantesque. Alors, je rouvrais les yeux. Pendant un instant, l'entourage me parut confus comme une image qu'on ne peut arriver à mettre au point. Mais peu à peu, je me rendais compte que je me trouvais seul, dans une belle et étrange chambre éclairée par de nombreuses fenêtres. Je ne pouvais me faire une idée de la nature exacte de cet appartement, car mes pensées étaient encore loin d'être en place. Mais je remarquais des tapis et des draperies de diverses couleurs. Des tables aux formes compliquées, des fauteuils, des divans, des canapés, des vases raffinés et des ornements qui donnaient une impression d'exotisme sans être réellement d'un pays étranger. Je notais ces détails bien qu'ils ne soient pas restés longtemps à la surface de mon esprit. Une crainte de l'inconnu a donné le vertige, se répandait lentement mais inexorablement dans les couches supérieures de ma conscience et prenait le pas sur tout le reste. Une crainte d'autant plus grande que j'étais incapable de l'analyser et semblant s'associer à une menace furtive. Cela ne concernait pas la mort, mais une chose sans nom, dont on n'avait jamais entendu parler et indiciblement plus horrible et répugnante. Ensuite, je compris que le symbole qui excitait ma terreur était l'affreux martèlement qui se répercutait sans répit, en battements affolants sur mon cerveau épuisé. Cela semblait provenir d'un point situé en dehors et au-dessous de l'édifice dans lequel je me trouvais et s'associait aux images mentales les plus terrifiantes. Il me semblait que quelques scènes ou quelques objets terribles se dissimulaient derrière les murs tendus de soie, et j'hésitais à regarder à travers les fenêtres, en plein cintre grillagé qui s'ouvrait d'une manière si déconcertante dans les deux sens. En voyant que ces fenêtres comportaient des volets, je les fermais tous, mais ce faisant, je détournais les yeux pour ne pas voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Ensuite, grâce à un briquet de pierre que je trouvais sur l'une des petites tables, j'allumais de nombreuses bougies plantées dans des appliques de style arabe accrochées au mur. Les volets clos et la lumière artificielle donnaient une impression de sécurité qui, jusqu'à un certain point, me calma les nerfs. Cependant, je ne parvenais pas à faire taire ce martèlement monotone. À présent que j'étais plus calme, ce bruit devenait aussi fascinant qu'effrayant, et j'éprouvais le désir d'en trouver l'origine, en dépit de mes réticences encore puissantes. J'ouvris une portière sur le côté de la pièce, le plus proche du martèlement. Je découvris un petit couloir tendu de tissus somptueux, aboutissant à une porte sculptée et à une fenêtre en encorbellement. J'étais irrésistiblement attiré vers cette fenêtre, mais je me sentais en même temps retenu avec autant de force par des appréhensions mal définies. En approchant, je vis dans le lointain un tourbillon d'eau chaotique. Une fois que j'y fus parvenu et que je regardais des deux côtés, le tableau prodigieux de ce qui m'entourait me sauta aux yeux avec une force entière et dévastatrice. C'était un spectacle comme je n'en avais jamais vu et que personne de vivant ne peut avoir vu, sauf dans le délire de la fièvre ou l'enfer de l'opium. Le bâtiment s'élevait sur une pointe très étroite, ou sur ce qui était à présent une pointe. 90 bons mètres au-dessus de ce qui avait dû être peu de temps auparavant, un tourbillon bouillonnant d'eau déchaînée. De chaque côté de la maison s'ouvrait un précipice de terre rouge que ses eaux venaient récemment de creuser, tandis que devant moi, les vagues terrifiantes continuaient à rouler effroyablement en mordant sur la terre avec une affreuse monotonie et sans se hâter. À un mille ou davantage, se soulevaient et retombaient des lames menaçantes d'au moins 4,50 m de hauteur, et à l'horizon lointain, des nuages noirs fantomatiques, aux contours grotesques, planaient comme des vautours de mauvais augure. Les vagues étaient sombres, pourpres, presque noires, et s'attaquaient à la boue rouge friable du rivage, comme des mains avides et rudes. Je ne pouvais me défendre d'avoir l'impression que quelque esprit maritime malfaisant avait déclenché une guerre d'extermination contre la terre ferme, poussée peut-être par le ciel furieux. Revenant à la longue de la stupeur dans laquelle ce spectacle anormal m'avait plongé, je me rendis compte que le danger physique que je courais était peut-être sérieux. Sous mes yeux, le rivage avait reculé de plusieurs pieds et il ne s'écoulerait peut-être pas longtemps avant que la maison ne s'effondre, entraînée par le terrain miné dans le gouffre terrible que battaient les vagues. En conséquence, je me hâtais de gagner l'autre côté de l'édifice. Je découvris une porte, sortis immédiatement et refermai grâce à une clé de forme bizarre que j'avais trouvée à l'intérieur. Je voyais à présent une plus grande étendue de l'étrange région qui m'entourait et remarquai une curieuse division qui semblait exister dans l'océan hostile et le firmament. De chaque côté du promontoire régnaient des conditions différentes. À ma gauche, quand j'étais tourné vers l'intérieur des terres, il y avait une mer qui se soulevait légèrement avec de grandes vagues vertes qui roulaient paisiblement sous un soleil éclatant. Il y avait dans la nature et la position du soleil quelque chose qui me fit frissonner, mais je ne pus sur le moment et je ne peux toujours pas dire ce que c'était. À ma droite, il y avait également la mer, mais elle était bleue, calme, mais avec seulement de petites ondulations, tandis que le ciel au-dessus était sombre et le rivage battu par les vagues, blanc plutôt que rouge. Je reportai alors mon attention sur la terre ferme, et je découvris une chose qui me causa une nouvelle surprise, car la végétation ne ressemblait à rien que j'ai vu et dont j'ai jamais lu la description. Elle était apparemment tropicale, ou au moins subtropicale, conséquence de l'intense chaleur de l'atmosphère. Je croyais parfois établir d'étranges analogies avec la flore de mon pays natal en m'imaginant que des plantes et des arbustes bien connus pouvaient prendre de telles formes sous l'influence d'un changement radical de climat. Mais les palmiers géants et omniprésents étaient nettement d'un autre pays. La maison que je venais de quitter était très petite, à peine plus grande qu'un cottage. Mais le matériau utilisé était évidemment de marbre. Son architecture était bizarre et composite, supposant une curieuse fusion des formes occidentales et orientales. Il y avait aux angles des colonnes corinthiennes, et le toit de tuiles rouges ressemblait à celui d'une pagode chinoise. Puis la porte s'étendait vers l'intérieur des terres un sentier d'un sable singulièrement blanc, d'environ 1,20 m de largeur, et bordé de chaque côté par des palmiers majestueux et par des arbustes à plantes, à fleurs, impossibles à identifier. Il allait vers le côté du promontoire où la mer était bleue et la rive plutôt blanche. En bas de ce sentier, je ressentis une impulsion, m'engageant à fuir comme si j'avais été poursuivi par quelque esprit malfaisant sorti de l'océan, dont les vagues se brisaient plus bas. Au début, il montait légèrement, et je parvins à une crête peu élevée. Je regardais le paysage que je venais de laisser derrière moi. Le cottage, les eaux sombres, la mer verte d'un côté, bleue de l'autre, et une malédiction innommée et innommable s'étendant sur le tout. Je ne l'ai jamais revue, et je me demande souvent. Après ce dernier coup d'œil, je partis à grands pas et je passais en revue le panorama qui s'étendait devant moi, vers l'intérieur des terres. Le sentier, comme je l'ai indiqué, suivait le rivage qui se trouvait à droite quand on s'enfonçait à l'intérieur. Devant et sur la gauche, j'apercevais à présent une resplendissante vallée sur des centaines et des centaines d'hectares recouvertes d'herbes tropicales qui se balançaient plus haut que ma tête. Presque à la limite de ma vision se trouvait un palmier colossal qui m'attirait et me fascinait. Dès ce moment, l'émerveillement et le fait d'être sorti de cette péninsule riche en périls avaient largement dissipé ma peur. Mais tandis que je faisais une pause et me laissais tomber de fatigue sur le bord du sentier, que j'enfonçais distraitement les mains dans le sable chaud d'un blanc doré, je fus saisi par une impression de danger nouvelle et intense. Une certaine terreur dont l'origine paraissait se dissimuler dans les grandes herbes bruissantes s'ajoutait à celle de la mer, au martèlement diabolique. Je me mis à crier à haute voix et sans suite. « Tigre ! Tigre ! Est-ce un tigre ? Une bête ! Est-ce une bête dont j'ai peur ?» Mon esprit revenait en vagabondant à une très ancienne histoire classique de tigre que j'avais lue. Je m'efforçais de retrouver le nom de l'auteur, mais j'éprouvais des difficultés. Et puis, en pleine terreur, la mémoire me revint. L'histoire était de Rudyard Kipling. Et ce qu'il y avait de grotesque à le traiter d'auteur très ancien ne me vint pas à l'esprit. J'aurais voulu avoir le volume contenant cette histoire et j'étais presque reparti en direction du cottage pour le chercher lorsque mon bon sens revenut et l'attrait du palmier me retinrent. Aurais-je pu ou non résister à cette attirance me faisant m'en retourner s'il n'y avait eu la fascination qu'exerçait le grand palmier en sens inverse? Je ne sais. Cette dernière attraction était maintenant la plus forte, si bien que je quittais le sentier et descendis à quatre pattes le versant de la vallée malgré ma terreur de l'herbe et des serpents qu'elle pouvait receler. Je décidai de me battre pour conserver la vie et ma raison aussi longtemps que possible. Contre les menaces de la mer ou de la terre, bien que j'ai eu quelquefois peur d'être vaincu, lorsque l'affolant bruissement de cette herbe étrange venait s'ajouter à l'irritant et persistant martèlement des lames lointaines. Je m'arrêtais fréquemment, me bouchais les oreilles pour m'accorder une trêve, mais sans pouvoir jamais barrer complètement le chemin à ce bruit détestable. Il fallut des siècles, m'a-t-il semblé, pour parvenir à me hisser jusqu'à ce palmier attirant et à m'étendre bien tranquille dans son ombre protectrice. Survint ensuite une série d'incidents qui me transportèrent aux deux extrêmes de l'extase et de l'horreur. Incidents que je ne peux pas me remémorer sans trembler et que je n'ose pas essayer d'interpréter. Dès que j'ai eu rampé sous le feuillage, en surplomb du palmier, un jeune enfant, d'une beauté telle que je n'en avais jamais vu, se laissa tomber des branches. Bien que vêtu de haillons et couvert de poussière, cet être avait toutes les apparences d'un faune ou d'un demi-dieu, et dans l'ombre épaisse de l'arbre, il semblait émettre une luminosité. Il tendait la main en souriant, mais avant que j'aie pu me lever et lui parler, j'entendis chanter au-dessus de ma tête la plus exquise des mélodies, une harmonie sublime, éthérée, de notes aiguës et graves. Pendant ce temps, le soleil avait plongé à l'horizon, et dans la demi-obscurité, je vis qu'une auréole irisée entourait la tête de l'enfant. Alors, d'une voix argentine, il s'adressa à moi. « C'est la fin. Ils sont descendus des étoiles à travers le crépuscule. À présent, tout est accompli. Et au-delà des ruissellements d'étoiles d'arignerie, nous trouverons la béatitude à Teloé. » Tandis que l'enfant parlait, j'apercevais une douce luminescence à travers les feuilles du palmier. Et en me levant, je saluai deux êtres que je savais être les chefs du cœur que j'avais entendu. Ce devait être un dieu et une déesse, car aucun mortel ne peut être aussi beau. Ils me prirent les mains et me dirent « Viens, mon enfant, tu as entendu ces voix, tout va bien. À Teloé, au-delà de la Voie lactée et des constellations d'Arignerie, se trouvent des villes d'Ambre et de Chalcédoine. Sur leurs dômes, aux multiples facettes, brillent les images d'étoiles étranges et magnifiques. Sous les ponts d'ivoire de Teloé coulent les fleuves d'or liquide sur lesquels naviguent les embarcations du plaisir cinglant vers la Citarion la fleurie dans les sept soleils. Et à Teloé ainsi que sur Citarion, c'est le domaine de la jeunesse, de la beauté, du plaisir. On n'y entend que des rires, des chants et le son du luth. Seuls les dieux habitent Teloé aux rivières d'or, mais tu vivras parmi eux. » J'écoutais, transporté. Et soudain, je constatais un changement dans ce qui m'entourait. Le palmier, qui si peu de temps auparavant donnait de l'ombre à mon corps exténué, était à présent à une certaine distance sur ma gauche, et notablement au-dessous de moi. Je flottais, incontestablement, dans l'atmosphère, accompagné non seulement par l'étrange enfant et le couple rayonnant, mais par une foule sans cesse croissante de jeunes garçons et de vierges, à moitié luminescents, couronnés de feuillage, dont les cheveux s'agitaient au vent et dont le visage exprimait la joie. Nous montâmes lentement, de conserve, comme portés par une brise parfumée venant non de la terre mais de la nébuleuse dorée, et l'enfant murmurait à mon oreille qu'il me fallait toujours regarder vers le haut, vers les sentiers de la lumière, et jamais en arrière dans la direction de la sphère que je venais de quitter. Les jeunes garçons et les vierges chantaient à présent, en s'accompagnant aux luttes de suaves strophes de vers. Je me sentais environné d'une paix et d'un bonheur plus profond que je n'en avais imaginé de ma vie. Lorsque l'intervention brutale d'un son unique vint modifier mon destin et ébranler mon âme. À travers les accents transportants des chanteurs et des joueurs de lutte, comme pour se moquer avec un ensemble démoniaque, le détestable martèlement de cet affreux océan se mit à monter des golfes qui se trouvaient en contrebas. Tandis que ces lames noires battaient leur message dans mes oreilles, j'oubliais les paroles de l'enfant et je regardais vers le bas, jusqu'à ce que ce décor funeste dont je croyais m'être échappé. En bas, à travers l'éther, je voyais la terre maudite tourner, tourner toujours. Des mers furieuses et agitées par les tempêtes rongeaient les rivages sauvages et désolés et lançaient de l'écume jusqu'au sommet des tours des cités désertées. Et sous une lune effrayante apparaissaient des spectacles que je ne pourrais jamais décrire, que je ne pourrais jamais oublier. Désert d'argile cadavérique, jungle de ruines et de décadence, là où s'étendaient jadis les plaines peuplées et les villages de mon pays natal, maelstrom écumant là où s'élevèrent jadis les temples imposants bâtis par mes ancêtres. Autour du pôle nord montait la vapeur des marécages où poussait une végétation infecte et d'où s'échappaient des vapeurs méphitiques, sifflant dans l'attaque des vagues montant sans cesse des profondeurs frémissantes, en roulant et en bouillonnant. Alors une grande explosion retentit dans la nuit, et en travers du désert des déserts apparut une déchirure fumante. L'océan noir continuait d'écumer et de ronger, de dévorer le désert de chaque côté, et la cassure centrale ne cessait de s'élargir. À présent, il ne me restait plus de terre à part le désert, et l'océan fumant continuait à ronger sans cesse. Immédiatement, je crus que la mer paraissait avoir peur de quelque chose, des dieux sombres de l'intérieur des terres, par exemple, qui sont plus puissants que le malfaisant dieu des eaux. Mais même dans ce cas, ils ne pouvaient plus reculer, et le désert avait trop souffert pour que ces vagues de cauchemars puissent les aider à présent. L'océan rongea donc ce qu'il restait de la terre et se déversa dans le gouffre fumant, abandonnant ainsi tout ce qu'il y avait jamais conquis. Il se retira de nouveau des terres nouvellement inondées, découvrant la mort et la pourriture. Et de son lit antique et immémorial, il s'écoula d'une manière répugnante, découvrant des secrets enfouis dans la nuit, des temps nocturnes, des années où le temps était jeune et où les dieux n'étaient pas encore nés. Au-dessus des vagues s'élevaient des clochers, des flèches élancées dont on se souvient. La lune déposait des lys pâles de lumière sur Londres morte, et Paris surgissait de sa tombe humide pour être sanctifiée par de la poussière d'étoiles. Alors s'élevèrent des flèches et des monolithes qui étaient élancés mais dont on ne se souvenait pas, de terribles flèches et monolithes de terre dont les hommes n'ont jamais su que c'était des terres. Il n'y avait plus aucun martèlement à présent, mais seulement le grondement surnaturel et le sifflement des eaux s'engouffrant dans la brèche. La fumée sortant de cette cassure s'était changée en vapeur et en s'épaississant, arrivait presque à cacher le monde. Elle me desséchait la figure et les mains, et quand je regardais l'effet produit sur mes compagnons, je m'aperçus qu'ils avaient tous disparu. Alors ce fut très soudainement la fin, et je ne sus plus rien jusqu'au moment où je m'éveillais sur un lit de convalescent. Le nuage de vapeur s'élevant du golfe de Pluton finit par me cacher toute la surface. Tout le firmament se déchira dans une subite agonie de folle réverbération qui secoua l'éther. Cela se produisit dans un holocauste aveuglant, assourdissant, de feu, de fumée et de tonnerre qui pulvérisa la pâle lune au moment où elle se précipitait dans le vide. Quand la fumée se fut dissipée, et quand j'essayais de tourner les yeux vers la terre, je ne vis, sur le fond d'étoiles froides et capricieuses, que le soleil et son déclin, et les pâles planètes en deuil à la recherche de leurs sœurs.